Si vous vous intéressez au cinéma et vous êtes peut-être membre de l'association Fonction Cinéma et vous avez dû recevoir ces derniers temps une annonce de la sortie du dernier film d'Alain Tanner qui a pour titre Le journal de Lady M. Alors, ce dernier film d'Alain Tanner est réalisé avec sa comédienne fétiche, si l'on peut dire. En tout cas, une très grande connivence de collaboration avec Myriam Mézières. Myriam Mézières qui avait fait déjà avec Alain Tanner Une flamme dans mon cœur. Ça me fait des drôles de souvenirs parce que je crois que c'est une des toutes premières émissions que j'avais réalisées à propos de cinéma, il y a bien longtemps déjà. Alors, qu'en est-il de ce film ? Eh bien, je ne l'ai pas encore vu. Il sortira dans les salles à Genève dès fin mars, plus précisément au cinéma Scala, qui, on le sait, s'engage souvent aux côtés des cinéastes qui essayent de faire des choses un peu particulières. Alors, simplement, je me réfère à des extraits de presse parus en Espagne où le film est déjà sorti. Par exemple, tiré du journal El País au mois de janvier dernier, qui dit ceci sous la plume de Mirito Torero. Il s'est risqué, bien sûr, Alain Tanner, à regarder l'utopie en face dans Jonas qui aura 25 ans l'an 2000. Il a fait le plus beau chant du nihilisme du cinéma contemporain dans Messie d'or. Avec les années-lumière, il a approfondi les chemins qu'emprunte inévitablement celui qui cherche à apprendre. Il a mis son immense talent au service d'une femme, son actrice fétiche Myriam Mézières avec Une flamme dans mon cœur. Et maintenant, 35 ans après ses balbutiements britanniques avec une caméra d'amateur, le Suisse Alain Tanner tourne à nouveau avec Myriam Mézières. Il en résulte un film étrange, provocateur, direct, tourné avec une maestria contenue. La modernité cinématographique tient en Alain Tanner l'un de ses artistes les plus inspirés. Et puis, dans d'autres journaux, de bien plus brèves citations, tirées de la presse espagnole toujours. C'est un film dur, une formidable dissection de l'amour et de la passion, un arrachement de l'âme. Les scènes d'amour y apparaissent dans toute leur crudité, dans toute leur beauté, sans artifice. Mais encore, une rencontre, une passion et la mutation d'un amour, le vide que laisse à l'âme la perte des êtres aimés. Une déchirante histoire, l'amour qui balaye les différences de race, de pays ou de sexe. Lady M appartient à cette race d'êtres blessés qui préserve une certaine innocence, une certaine pureté. Le sexe, la passion bascule de l'eau à la terre, de l'homme à la femme qui est fertilité et pouvoir. Alors toutes ces phrases pour qualifier le journal de Lady M, dernier film réalisé par Alain Tanner avec Myriam Mézières, qui est aussi un film qui est aussi interprété par Juanjo Puigcorbé, je ne sais pas très bien comment ça se prononce, et Félicité Voici, que vous pourrez voir, je vous le rappelle, dès fin mars au cinéma Scala à Genève. La petite nouvelle que j'ai à vous donner maintenant n'est pas tirée d'un journal, ni d'une revue, ni d'un hebdo, ni de rien du tout. C'est de la pub que vous avez d'ailleurs vue paraître peut-être pour la première fois. Oui, c'était tiré d'un journal à l'origine, puisque la Tribune de Genève, aux surprises, avait annoncé les dates du nouveau festival international de films de femmes de Créteil qui a lieu cette année du 26 mars prochain, c'est vendredi, jusqu'au 4 avril et qui, comme d'habitude, nous propose tout un programme magnifique de films réalisés par des femmes ou des femmes en collaboration avec des hommes. Alors, comme d'habitude, Romu Minage y sera, entre autres en compagnie de Laurence Brun, qui est notre correspondante pour le Festival du film de femmes de Créteil à Paris. C'est elle qui sera ce week-end. Quant à moi, je serai le week-end prochain. Et nous vous raconterons plein de choses sur ce festival, espérant que nous vous rapporterons plein de belles interviews. Mais sachez déjà que, par exemple, nous pourrons et vous pourrez y voir si vous y allez, parce que ça vaut la peine de se déplacer pour cela. Toute une série de films qui feront l'autoportrait de la comédienne Monica Vitti, avec des films, rappelez-vous, comme Scandalo Segredo, Nous les femmes, Drame de la jalousie, L'éclipse, L'aventure. Il y aura aussi toute une carte blanche donnée à Karine Saporta. Karine Saporta, que vous connaissez peut-être parce qu'elle est danseuse, mais elle réalise aussi des films, elle est photographe. Et elle nous propose tout un parcours du côté d'un cinéma beaucoup moins narratif. Elle nous offre une sorte d'inventaire depuis les débuts du cinéma des œuvres de femmes qui ont été révolutionnaires. Une autre section du festival de cette année, c'est Les Européennes, section qui avait déjà d'ailleurs existé l'année précédente. 12 réalisatrices, 6 pays, en l'occurrence une réalisatrice d'un pays d'Europe qui présente un de ses films et invite une autre réalisatrice ou une professionnelle de son choix. Alors nous verrons un film d'Espagne, de Grande-Bretagne, de Grèce, de Hongrie, d'Italie, avec chaque fois deux personnes pour nous parler de leur pays et de leur film. La soirée de gala vendredi 2 avril, eh bien, c'est projeté dans la grande salle, un film choisi par Karine Saporta, justement. Et puis, il y a bien sûr toute une série de longs-métrages fiction en compétition, je vous en donne juste un ou l'autre. Par exemple, un film réalisé en France par Christine Lipinska, qui évoque la paix, l'amour et la mort qui firent irruption ensemble dans un certain village. La passion de Mathilde pour Anne secoue la torpeur bien pesante du village. Ce film, d'après l'œuvre de Régine Desforges. Il y aura un film réalisé par une femme de la République tchèque, Irena Pavlaskova, qui s'appelle Corpus Delicti, et qui est un chassé croisé d'individus de couples qui se cherchent un bonheur, des perspectives, ignorant la chute imminente du communisme. Un film réalisé conjointement par la France et l'Ukraine, qui a pour titre Le Milicien amoureux, un film venant de Hong Kong, un film venant d'Islande et un film venant de Géorgie, ça c'est pour les longs-métrages de fiction, documentaires. Eh bien, il y aura par exemple un film réalisé par Susan Seidelman, excusez-moi, réalisatrice anglaise que vous connaissez puisqu'elle a réalisé Recherche Suzanne désespérément et qui revient dans ce film qui a pour titre Confession d'une fille de la banlieue sur son passé de jeune fille sage. Autre documentaire en compétition qui a pour titre Contes et contes, Contes ce que l'on raconte et Contes ce que l'on compte. Eh bien, c'est un film qui se passe au Niger. Les hommes musulmans de rang social élevé marquent leur dignité en enfermant leurs femmes. Sur les images de ce harem, des petites filles expriment leur refus de cette tradition. Un film qui a pour titre « La bonne épouse de Tokyo » qui est réalisé par deux femmes, sous Claire Hunt et Kim Longinotto, et qui raconte l'histoire d'une femme devenue chanteuse d'un groupe de rock qui avait quitté le Japon il y a 15 ans et qui retourne revoir sa famille. Elle découvre que sa mère est devenue prêtre, un personnage étonnant, etc. Je pourrais vous donner encore une longue liste. Mais ce qui est important, c'est de savoir que c'est vendredi que ça commence, avec un grand film surprise. Et c'est la soirée d'ouverture, bien sûr, en présence des réalisatrices, des compétitions et des membres du jury, avec toute la fête qui fait partie du Festival du film de femmes de Créteil dans sa 15e édition pour cette année. Alors, si jamais vous avez besoin d'informations, vous pouvez toujours nous téléphoner au 50 40 51 41, tout de suite maintenant, 023 si vous appelez depuis Genève, 0033 si vous appelez depuis la Suisse romande voisine, et nous vous dirons tout sur Créteil. Mais sachez que ça commence vendredi 26 mars et que cela se termine le dimanche 4 avril avec une distribution des prix dans le cadre d'une fête magnifique toujours. Alors commençons maintenant notre revue des revues. Il est une revue que nous recevions jusqu'à maintenant tous les mois. C'était Une Terre de Peuple, le journal de l'Association pour l'Union entre les peuples juifs et palestiniens. Il semblerait que la parution va s'espacer un petit peu parce que les forces vives s'amenuisent, parce que les coûts sont élevés, que les gens ne payent pas régulièrement leurs abonnements, etc. Enfin bref, tout ça qui est fort dommage parce que nous n'aurons plus aussi régulièrement que d'habitude les nouvelles et que les gens seront plus difficilement mobilisés sur des actions d'urgence puisque nous trouvions les deux choses dans ce journal, à la fois de l'information, à la fois des indications pour se mobiliser sur un certain thème. Mais en même temps, bah, peut-être l'occasion de lire plus à fond chacun de ces journaux puisque souvent nous avons beaucoup de choses à lire. Alors je me propose de vous donner aujourd'hui des nouvelles des femmes prisonnières qui sont données par une association qui s'appelle Women's Organization for Political Prisoners, organisation de femmes pour les prisonniers politiques, et qui nous donne des nouvelles des détenus dans les diverses prisons des territoires occupés ou d'Israël. Par exemple, nouvelles provenant de la prison de Hacharen. Le 22 décembre dernier, les détenus ont fait une grève pour protester contre l'expulsion des 415 Palestiniens des territoires occupés le 17 décembre et ont refusé de quitter leur cellule pour la promenade. Le 29 décembre, Walid Sadek, le ministre de l'Agriculture du parti Meretz, leur a rendu visite. Bien que Sadek ait pris part lui-même à la grève de protestation contre l'expulsion, et bien que les détenues n'aient rien eu contre lui personnellement, elles ont déclaré qu'elles refusaient tout contact avec le Meretz, dont les ministres avaient soutenu l'expulsion. Le 9 décembre était marqué par le 5e anniversaire du début de l'intifada et les détenues ont voulu marquer l'événement en se réunissant. N'y ayant pas été autorisées, elles ont célébré cette journée en chantant dans leur cellule. La direction a menacé de priver de visite pendant 2 mois les détenus de grandes cellules dont les chants avaient été plus forts que ceux des détenus des petites cellules, évidemment. À quoi les détenus ont répondu que soit elles étaient toutes punies, soit aucune ne l'était. Pour montrer leur résolution, elles ont toutes renoncé à leur visite suivante. Pour une fois, la directrice est revenue sur sa décision et personne n'a été puni. Depuis, lors de presque toutes les visites, plusieurs familles ont été renvoyées et quand les détenus ont demandé des explications, il leur a été répondu qu'il s'agissait d'erreurs. Celles-ci sont devenues si nombreuses qu'elles en étaient suspectes. Le 1er janvier, jour anniversaire de la création du Fatah, des détenus de la nouvelle section ont chanté dans la cour. Cette fois, la punition a été appliquée, soit 1 mois sans visite pour les détenus de cette section. Pendant plus d'un mois, les porte-paroles des détenus n'ont pu rencontrer le directeur afin de discuter de leurs nombreuses questions, demandes et plaintes. Elles n'ont pas même pu fixer rendez-vous avec le directeur de la section des femmes. Depuis l'accord conclu au lendemain de la grève de la faim de l'automne dernier, les détenus peuvent se faire photographier 1 fois par année et le temps de promenade a été prolongé d'une demi-heure. Voyez jusqu'où il faut négocier. Une gynécologue a de nouveau rendu visite aux détenus et plusieurs d'entre elles reçoivent des soins attendus depuis longtemps. Contrairement à l'accord, c'est le médecin de la section des hommes qui s'occupe de toutes les autres questions de santé. Les femmes, surtout les jeunes filles, refusent de se déshabiller devant un homme et renoncent ainsi parfois à toute aide médicale. Le dentiste ne parle pas du tout l'arabe et certaines détenues doivent se faire accompagner d'une co-détenue parlant l'hébreu. Depuis peu, elles doivent s'y rendre individuellement et beaucoup préfèrent ne pas y aller du tout. Les détenues souffrent du froid, bien qu'on relève de légères améliorations du fait que les familles peuvent maintenant apporter des manteaux. La direction a mis 3 radiateurs électriques à la disposition des détenus des 25 cellules. Comme ce chiffre est évidemment très insuffisant, elles les ont retournés. Les familles ne peuvent de plus apporter de tels radiateurs. Les bouillottes sont depuis peu interdites, y compris aux détenus souffrant de rhumatisme. La plupart des fenêtres sont soit brisées, soit ne peuvent se faire fermer complètement. Ce n'est qu'à la fin du mois de décembre que quelques réparations ont été faites. Les fenêtres ont été collées avec du papier. Nous vous laissons juge de ces grandes réparations. Les détenus condamnés et en prison depuis plus d'une année peuvent maintenant se présenter à des examens d'entrée à l'université. Celles qui désirent en suivre les cours ne peuvent toutefois le faire. L'université ouverte de Cisjordanie propose des cours par correspondance, mais la direction de la prison, pour des raisons bureaucratiques, refuse aux détenus le droit de les suivre. Il est intéressant de relever qu'il y a à Hacharon un prisonnier autorisé à suivre quotidiennement les cours du Rabin College. Il peut passer du temps dans les bibliothèques et rendre visite à d'autres étudiants. Ce chanceux est Gilles Fuchs qui, avec un complice, a assassiné en 1985 un chauffeur de taxi palestinien pour des raisons nationalistes et a été condamné à une peine de perpétuité écourtée depuis et arrivant à son terme dans 2 ans. Nombre de détenus ont des fils, des frères, des pères ou des maris également emprisonnés. Elles doivent, pour les rencontrer, demander des autorisations spéciales qui sont généralement refusées. Les détenus mineurs souffrent toujours d'exanthèmes douloureux dus vraisemblablement aux vieilles couvertures sales reçues au début de l'hiver. Deux détenus qui ont respectivement 22 ans et 35 ans, ont toutes deux perdu leur père en janvier. Non seulement elles n'ont pu se rendre aux funérailles ou réconforter leur mère, mais elles n'ont même pas pu recevoir des visites de condoléances dans leur cellule. Une autre détenue, 20 ans, est épileptique et souffre périodiquement de convulsions. Un jour, lors d'une attaque, elle est tombée de son lit. Le médecin de la prison ne peut rien pour elle, dit-on. Et un médecin de la Croix-Rouge a recommandé qu'elle subisse des examens. À ce jour, rien n'a été entrepris dans ce sens. Encore une autre détenue, 15 ans, arrêtée le 4 décembre 1991, souffre d'enflure à un bras et à une jambe où elle a été battue plusieurs fois au centre de détention d'Ashkelon il y a une année. Et ce n'est que récemment qu'on l'a conduite à l'hôpital pour des soins. Trois autres mineurs, 16 ans et 15 ans, ont été maltraités au Russian Compound, ont déposé plainte et ont reçu la visite d'une commission d'enquête traitant du cas. L'une d'entre elles, frappée à la tête, souffre périodiquement de maux de tête. Nouvelle du centre de détention de Kishon, où une femme de 23 ans, une palestinienne israélienne de Mousmous, étudiante de deuxième année à l'université hébraïque de Jérusalem, a été arrêtée le 17 décembre dernier. Pendant la première semaine, il lui a été interdit de rencontrer un avocat. Elle a été interrogée d'abord dans un centre, puis conduite dans le centre de détention de Kishon et isolée. Elle a été interrogée par quatre personnes, les mains liées et un sac sur la tête pendant de longues heures ou enfermée dans une cellule minuscule. Elle a été insultée et menacée de ne pas pouvoir poursuivre ses études. Comme elle n'avait pas accès au réfectoire, ce sont les détenus de droit commun qui lui apportaient ses repas et qui ont profité pour l'insulter et la harceler. Le 24 décembre, l'une d'elles a renversé de l'eau bouillante sur son bras et d'autres ont vidé le contenu d'un extincteur dans sa cellule, la faisant suffoquer. Quand elle s'est plainte à un gardien, celui-ci lui a répondu qu'il était dommage qu'elle n'en soit pas morte. Ne pouvant déposer plainte auprès du directeur de la prison, elle l'a fait auprès du juge quand elle a été conduite le 25 décembre pour une extension de sa peine. Outre une réprobation molle adressée au gardien, rien n'a été fait pour la protéger. Elle a demandé à ce que ses repas soient apportés soit par une gardienne, soit par une détenue de droit commun palestinienne, mais on ne l'a pas écoutée et elle a entamé une grève de la faim. La direction de la prison l'a placée à l'infirmerie où on la nourrit par perfusion. Et le 31 décembre dernier, elle a été libérée sans qu'aucune charge n'ait été retenue contre elle. Voilà des nouvelles produite par le Women's Organization for Political Prisoners, ceci tiré du journal Une Terre, Deux Peuples, association pour l'union entre les peuples juifs et palestiniens. Je vous rappelle que si vous désirez vous abonner à ce journal, il suffit d'écrire à l'association pour l'union entre les peuples juifs et palestiniens, case postale 43 1247 Asnières, Genève. Diplomatie à la sauce bonne femme, tel est le titre d'un article écrit par Ariane Dayer dans l'Hebdo de fin février et qui se penche sur ce que font les épouses de diplomates pendant que leurs maris refont le monde. Eh bien, en l'occurrence, elles ont choisi de faire la cuisine et viennent parfois se perfectionner à l'école hôtelière de Lausanne. Alors, elles ont livré à Ariane Dayer leurs impressions d'une semaine de cours. Alors, il faut que vous vous imaginiez le décor. Agrippée à un couteau de cuisine gluant, Madame la consul tente pour la troisième fois de décoller la noix de son gigot d'agneau. Floupe dans un bruit mou et liquide, l'animal se rebiffe et retombe sur la planche. Une goutte brunâtre s'étale sur le corsage de soie blanche. Madame la consul ne s'en aperçoit pas, elle n'a qu'un but, reprendre la bête en main. Elle va y arriver, elle doit y arriver. Après une vie remplie des aléas de 8 postes à l'étranger, elle ne va pas se laisser embêter par un stupide gigot d'agneau. God for dummy. Triomphante et le petit doigt levé, elle finit par brandir sa noix comme un trophée de guerre. Trop tard, l'attention des collègues est déjà prise ailleurs dans le bac à langoustes. Une voix hurle d'épouvante. « Vous n'allez pas la mettre dans l'eau bouillante, elle est vivante !»« Mais non, madame, elle est morte. Ne me prenez pas pour une imbécile, je viens de la caresser, elle a baissé les yeux. » Terrine de saumon, mignon de bœuf et suprême de pintade, les recettes se suivent jusqu'à l'écœurement. On n'est pas là pour perdre son temps. La seule sauce bonne femme se fait avec des champignons hachés rapidement. La cuisine diplomatique suit le même rythme. Depuis 16 ans, l'école hôtelière de Lausanne accueille pendant une semaine des femmes de diplomates ou de consuls suisses. Le cours a pour titre « Comment recevoir » réunit 23 personnes en ce début février et est conçu pour que ces dames puissent épater sans trop dépenser. Voyez-vous, même à l'étranger, on économise. La formule ne vient pas de Betty Possy, mais bien évidemment du département fédéral des affaires étrangères par la voix du chef de la section recrutement et formation du personnel, M. Christian Multaler. Dans les dîners officiels, dit-il, toute la réputation de la Suisse est en jeu. Ces cours sont donc éminemment nécessaires. À côté de la raison d'État, le département des affaires étrangères est également motivé par une volonté plus officieuse. Donner plus d'importance aux femmes de diplomates, les revaloriser en les mettant au fourneau. L'idée n'est peut-être pas empreinte du féminisme le plus outrancier, mais elle fait recette, semble-t-il. Chaque année, il faut refuser du monde. Alors Christian Multaler explique « Ces dames sont toutes contentes d'être reconnues pour leur travail. Il faut bien admettre que souvent, les pays hôtes leur interdisent d'exercer un métier. Confinée au rôle d'épouse gouvernante, la femme de diplomate vit parfois de véritables galères. Elle se retrouve seule dans un pays dont elle n'a pas encore apprivoisé les mœurs, la langue ni le climat. » Patricia, par exemple, se souvient de la torpeur insoutenable de ces années à Hanoï. Nous vivions dans une chambre d'hôtel avec un petit filet d'électricité. La nuit, mon mari mettait des heures pour cuire du pain dans le four de la salle de bain. Il faisait déjà tellement chaud que ça devenait irrespirable et l'on ne pouvait pas sortir à cause du couvre-feu. Pose souvenir dans les yeux dans le vague, puis Patricia revient sur terre. N'empêche qu'un matin, l'ambassadeur d'Allemagne nous envoyait son cuisinier pour que nous lui donnions la recette. 6 canapés à l'heure. Et oui, le cours a été directement conçu pour les besoins des femmes de diplomates et de leurs employés, bien évidemment. Et donc, on y donne le nombre de canapés par personne, 6 pendant la première heure, 3 ou 4 chaque heure qui suit si les invités s'incrustent. Sachez donc ce à quoi vous avez droit quand vous allez dans une ambassade. Ensuite, les verres à remplir pour un cocktail de 50 personnes censé durer 45 minutes, 3 par tête, et le personnel nécessaire à l'accueil des 470 invités, 2 maîtres d'hôtel, 6 barman et 12 sommeliers. On n'oublie pas non plus les situations extrêmes, les décorations de table pour les pays où la flore se résume au cactus, employés des fruits, mesdames, les palliatifs à l'absence de levure, macération de bière et mélasse, et la préparation du poulet pour les régions où il arrive tout seul dans la cuisine, guilleret, vivant et bien plumé. Sans oublier le cours de connaissance des vins, après avoir goûté 9 blancs et 6 rouges, une voix chevrotante mais distinguée s'élève. « Monsieur, pouvez-vous m'apprendre à cracher ?» Je crois que ça doit être très délicieux d'être mouche dans ces cours. L'ambiance un peu crispée au début de la semaine se réchauffe assez vite. À tremper sa main dans le même saladier de céleri, écailler le même poisson ou se laver les dents dans un lavabo commun, on finit par faire connaissance. C'est là que les caractères se dessinent, souvent atypiques. La Norvégienne fait de l'humour, la Vietnamienne goûte tout ce qu'elle trouve et la Libanaise frappe dans ses mains pour rappeler les bavards à l'ordre. L'Alémanique, elle, reste évidemment scientifique. Quel degré? À quelle hauteur? Combien de temps? Combien pèse un jaune d'œuf? Au sommet du hit parade de l'application, Bernard. Dans un carnet relié qu'il appelle mémoire culinaire d'un diplomate, il dessine tout ce qu'il voit. La place des services, la disposition des tables, la longueur des nappes et un graffiti proche de l'obscène qui s'avéra, après vérification, n'être qu'une innocente brioche. Quand il a un doute, Bernard se renseigne. « Oui, monsieur, comment on fait la fourrure sic du croissant ?» Le harcèlement de l'allaitement, vous avez dit Bernard, et oui, il y a aussi des hommes au cours des femmes de diplomates. Cette année a même vu un record, puisqu'ils étaient trois. Attention, il ne s'agit pas de maris de femmes engagées dans la carrière. Non, ce sont simplement des diplomates ou des membres de corps consulaires non mariés. Leur présence, comme celle des femmes diplomates célibataires, est un signe des temps. Le département fédéral des affaires étrangères devient un peu plus tolérant. Symbole de cette ouverture, l'impertinente petite queue de cheval du sémillant Jat Gen. À Bangkok, où je suis en poste, c'est une tradition religieuse. Bousculant tous les a priori, le dernier cours a fait encore plus fort. Il a admis la présence du petit Aurel, 4 mois et demi, que sa mère allaitait pendant les leçons. Oh là 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 là! La scène s'est néanmoins avérée un peu osée pour le milieu diplomatique. À témoin, la remarque lancée par un homme aux lèvres pincées. Ce sein sous nos yeux, c'est du harcèlement sexuel sur les lieux de travail. Je vous laisse seul juge, mesdames, auditrices de Remue Ménage. Autre bémol à apporter à l'égalité des sexes, l'aveu de Francesco. Je n'ai jamais repassé une chemise de ma vie. Au début, ma mère le faisait et après, j'ai eu du personnel. Le clou de la semaine est sans conteste le vendredi soir. Pendant que les femmes dressent le buffet, les messieurs de Berne suivent le cours de dégustation de vin. Contrairement aux policiers, nous ne buvons que pendant les heures de service. Devant le plateau de pâtisserie, Norma jette un coup d'œil à gauche puis à droite. Personne ne la voit. Sur un petit gâteau, elle colle à la salive ce pétale de rose en sucre qui ne veut pas tenir. L'idée ne correspond peut-être pas au protocole, mais elle est efficace. Une heure après, Norma sera changée, maquillée, raide, ayant revêtu cette baleine de parapluie que toute femme de diplomate se colle moralement à la colonne vertébrale. Au diable les plaisanteries de collègues, on parle désormais politique internationale. Nadia est la seule à rester espiègle. Elle pousse du coude ses voisins pour leur montrer sa dernière œuvre. Pour faire chic, elle a fait une tresse à Jat Gen.
Je suis l'ortie et l'herbe folle. Je suis la pluie dans la rigole. Je ne suis utile à personne. Je disparais sans qu'on s'étonne quand le rideau est tombé. Que l'on moissonne à chaque saison des blés. Ah, 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 ah. Je ne compte pas dans vos vies, je suis toujours dans votre nuit, puisque tout au long de ma vie, je suis née pour être.